tous, la grande table file sur les chemins estivaux à la rencontre des musiciens et des poètes. À 13h50, François Sureau sera dans le lieu-dit de la Bariva, titre d'une des nombreuses aventures du gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Mais tout de suite, cap sur Marseille et le Mucem, à l'occasion de l'exposition L'Orient sonore, musique oubliée, musique vivante, qui se tient jusqu'en janvier prochain. Une exposition qui a pour objet de documenter l'ensemble des musiques qui ont traversé l'Orient, de l'âge d'or aux années 70, de les numériser et de les sauver de l'oubli. Parmi celles-ci, la musique Wasla qui va chanter dans le oud du musicologue Tarek Abdallah et résonner entre les doigts du percussionniste Adel Chameldine. Nous serons ensuite en compagnie de la chanteuse franco-algérienne Swad Massi, dont la musique et les textes signent l'engagement dans un sixième album intitulé Ounia, mon souhait. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Tarek Abdallah, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par parler de cette exposition, cette grande exposition qui a lieu en ce moment au Mucem. Alors avec des tapis, des lieux dans lesquels on peut s'asseoir et se mettre dans un état un peu de contemplation presque hypnotique devant ces vidéos et ces musiques qui ont été numérisées pour ne pas les perdre. C'est ça l'idée, Tarek Abdallah ?
Tout à fait. La fondation Amar, qui a été fondée en 2009 par Kamal Qassar, qui est un homme d'affaires et un grand amateur de musique arabe.
Et qui est le commissaire de cette exposition.
Tout à fait, tout à fait. Elle consiste déjà à documenter et à archiver les anciens enregistrements sur 78 tours. Ça a commencé comme ça. Donc, qui a commencé en Égypte en 1903, au Levant en 1906. Et il a aussi entamé un travail à partir de 2016 jusqu'à 2019 pour documenter 12 traditions musicales menacées de disparition à cause de la guerre, de problèmes politiques et changements dans la société, quoi, l'évolution de la société.
Alors on voit à quel point justement, en ce qui concerne les musiques de l'Orient, alors quand on parle de l'Orient, on parle à la fois du Moyen-Orient et des pays du Maghreb.
Tout à fait.
Des musiques influencées aussi par la langue arabe, mais pas simplement. Il y a aussi les musiques kabyles.
Tout à fait, le chant copte, et etc. Il y a beaucoup, beaucoup de traditions. Donc c'est l'Orient basé sur la diversité et les échanges aussi entre les différentes traditions.
Alors ça commence en 1903, pourquoi ? Pour des raisons d'enregistrement, tout simplement des raisons techniques, Tarek
Abdallah ? Voilà, c'est l'année où l'industrie du disque est arrivée en Orient, dans la région. Donc on a Audion, Gramophone qui se sont installés en Égypte. On a commencé à enregistrer les grandes voix. Qu'il s'agisse de chanteurs de la musique savante ou de chants populaires, de chants religieux, etc. Et au fur et à mesure, ça a aussi transformé la musique elle-même, puisque le disque avait beaucoup de contraintes. Par exemple, il était permis d'enregistrer de 3 à 4 minutes pour une face. Tandis que la tradition de la musique savante était basée sur ce qu'on appelle, en Égypte en tout cas, la suite musicale nommée la wasla, dont vous avez évoqué, qui durait entre 30 minutes jusqu'à une heure seulement.
Oui, donc le temps s'étirait beaucoup plus.
Tout à fait. Donc selon le contenu et l'improvisation, qui représente quand même un aliment central dans la pratique de cette musique.
Alors d'autant plus que l'idée c'était que chacun des musiciens puisse improviser et que chacun puisse s'accorder à travers cette improvisation qui se passe dans la durée, Tarek Abdallah. Et donc à la fois on voit que la mission c'est de perpétuer ces musiques-là, donc d'en garder des traces sonores, et en même temps, au moment où ces musiques ont dû se conformer aux enregistrements, elles ont perdu quelque chose de leur tradition.
Tout à fait, puisque le format du disque n'était pas adapté à tout enregistrer. Et donc, premièrement, ça a conduit à morceler la suite musicale, à donner des formats assez compacts pour faire rentrer un morceau qui dure d'habitude 20 minutes ou 25 minutes. Il a fallu 2 disques. Et parfois, il faut enlever la moitié du morceau. Et deuxièmement, cette histoire de changement de face, il a fallu mettre 5 minutes entre la première partie et la deuxième partie, un chronométrage préalable avant l'enregistrement, etc.
Alors on voit qu'il y a eu un travail technique qui a été remarquable, puisque certains enregistrements étaient tellement en danger que les écouter une fois, c'était prendre le risque de détruire ces disques-là, ces musiques.
Oui, tout à fait. Et c'est là où on salue le travail de la Fondation Amar, qui a commencé par un corpus composé de 3000 disques. Aujourd'hui, on a 10 000 disques au moins. Et des milliers d'heures d'enregistrement sur d'autres supports qui vont jusqu'à les années 1970. Et c'est remarquable aussi tout le travail de publication qu'a fait la Fondation Amar depuis 2010. On a fait 9 coffrets. Donc à chaque fois, c'est dédié soit à un chanteur ou une chanteuse ou à un groupe ou à un instrumentiste aussi.
C'est un travail de collectionneur qui a été fait.
Tout à fait, et de recherche aussi, parce que chaque coffret il est accompagné soit par un livre, soit par un livret trilingue qui explique, qui donne des éléments pour bien comprendre déjà la musique de cette époque et pour expliquer ce qui se passe exactement.
Alors vous, à l'intérieur des livrets, vous avez participé notamment à deux sujets qui sont évoqués et vous nous expliquez dans ces articles que l'histoire des musiques traditionnelles, c'est aussi l'histoire des instruments. Des instruments traditionnels et du contact avec l'Occident et de l'apport de nouveaux instruments.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai écrit un article sur le changement stylistique dû au changement dans la composition de l'ensemble, des ensembles instrumentaux partout en Orient. Donc, par exemple, on passe de 4 à 6 instrumentistes solistes à un grand ensemble de 30 instrumentistes avec beaucoup de violons. Le violon est rentré dans l'ensemble instrumental à la fin du 19e siècle, mais à la fin des années 1920, on assiste à un phénomène de gonflement. Donc on a beaucoup de cordes frottées. De fait, les instruments acoustiques tels que le oud, le luth, le qanoun, qui est une sorte de sitar sur table, ont disparu. Donc ils jouent de l'or un rôle assez marginal. Deuxièmement, il a fallu aussi simplifier la ligne mélodique, enlever l'ornementation, etc., unifier l'interprétation, recours systématique à la partition, donc une fixation et une condamnation à mort pour un discours musical qui est censé être réinventé à chaque interprétation.
Alors en même temps, ces contacts aussi avec l'Occident, l'arrivée des nouveaux instruments, ça a engendré aussi des réappropriations de ces instruments. Vous avez choisi de nous faire écouter plusieurs archives de l'exposition, notamment celle de Taksim Moujanas, je ne sais pas si je le prononce comme
oui,
il
tout
faut.
À fait, tout à fait.
Tarek Abdallah, on va l'écouter, c'est en 1905.
Allah ya Ibrahim Afendi ya Sahloun ya Kamangati, Samaa Ma'ana ya Tujmi.
Tarek Abdallah, c'est Ibrahim Sahloun qu'on entend ?
Oui, tout à fait.
C'est celui qui a introduit le violon ?
Il fait partie des premières générations,
en
oui.
Occident. En Orient.
En Orient, voilà. Ibrahim Sahloun, c'est un juif égyptien. Et il a étudié avec quelqu'un qui s'appelle Hassan Al-Jahil. On n'a pas, malheureusement, pas d'enregistrement de lui, puisqu'il est il est mort avant l'arrivée de l'industrie du disque. Donc Ibrahim Sahloun, c'est un super instrumentiste et il avait une grande notoriété à l'époque et c'est pour ça qu'il a enregistré pas mal d'improvisations modales que l'on nomme Taqassim.
Alors on voit justement que ces musiques sont extrêmement variées, à la fois dans leur périodicité, mais aussi dans leurs influences. Il y a bien sûr l'influence de la musique arabe, mais il y a aussi des influences byzantines, il y a des influences qui viennent de Mésopotamie.
Tout à fait, tout à fait. C'est là où on parle de, on évoque les échanges. Donc, il y a toujours cet échange. On peut pas copier, par exemple, le répertoire de musique, en Égypte de, l'époque copte, par exemple, ou la période d'après. Les échanges entre la musique en Irak et en Perse, la musique andienne également. Donc, il y a beaucoup d'influence en permanence.
Alors, je vais vous laisser vous installer avec votre oud. On va vous entendre avec Adel Shamselzin jouer de la wasla, ces suites égyptiennes.
Donc, nous allons interpréter Wasla. Wasla, c'est le titre de notre premier album qui est apparu en 2015. Et Wasla, c'est-à-dire la suite, c'est-à-dire aussi une liaison. Et ce morceau, il est composé sur un mode nommé Bayati. Donc, pour donner juste un... Voici l'échelle du mode Bayati, sachant qu'avec la même gamme, on peut construire beaucoup de modes différents. Et il est basé sur un cycle rythmique complexe nommé Khoshrank, il y a 17 ans. Je laisse Adel dire deux mots sur le cycle rythmique.
C'est le cycle rythmique oublié aussi.
Ouais.
Ça, c'est parce que c'est le cycle
oublié, rythmique. Mais qui a reconnu une deuxième vie.
Voilà, exactement. C'est le but de notre travail actuel. C'est de faire revivre ces six cycles rythmiques qui sont complètement oubliés. Et le cycle rythmique, normalement, c'est composé de deux onomatopées. C'est les doum et les tac. Et à partir de là, on fait des recycles rythmiques à deux temps. Un, deux. Ou à trois temps. Quatre temps. Et à partir de là, on commençait à faire plus. On fait 2 plus 3, ça fait 5. On fait 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. Et ils ont commencé à faire ça. Et le but, c'était d'accompagner la poésie, les accents qui sont dans la poésie.
Alors pourquoi 17? Est-ce que 17, c'est le rythme poétique?
C'est un rythme. Il y a un poème qui est sur le 17 ans, qui est chanté. D'ailleurs, on le connaît. C'est le seul qu'on a reçu ça des anciens, comme on dit ça. C'est toujours, on dit Kadim, c'est ancien. On sait pas, on connaît pas le compositeur, on connaît pas les paroliers, mais et ça nous a arrivé quand même depuis le temps. Et à partir de là, on a pris le cycle rythmique à 17 ans et Tarek, il a commencé à composer là-dessus. Et le cycle, il fait... Ça fait 17. On va commencer à jouer avec Tarek.
On écoute.
Thank you.
Beaucoup Tarek Abdallah et Adèle Ndim. Ça me fait penser à cette émotion dont on parle aussi dans cette exposition du MUCEM, l'effet tarab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Tarek Abdallah?
Oui, le tarab, c'est une notion assez complexe à expliquer. On peut dire que c'est une jouissance esthétique due à l'écoute de la musique, notamment à un discours musical improvisé, et qui provoque une émotion forte et qui se manifeste aussi par une réaction verbale.
Ah, une réaction verbale. C'est les soupirs, c'est les hurrahs, c'est quoi?
Voilà, c'est comme le duende, par exemple, dans le flamenco, comme le hal dans la musique savante iranienne. Et donc, c'est l'auditeur attentif et averti qui connaît très 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 bien que aujourd'hui ou maintenant l'interprète a introduit une nouveauté dans l'interprétation, et donc pour exalter le chanteur et pour l'encourager, il lui met un, il dit Allah, Ya Salam, etc. Oh Dieu, par exemple.
Donc ça, c'est le signe que la musique est vivante, Tarek Abdallah.
Tout à fait, et cette réaction aussi a été un peu perdue avec le 78 tours. Et c'est pour ça qu'on a amené toujours ce qu'on appelait le motayebati pour encourager les instrumentistes au studio, dans le studio.
Alors vous, cette quête que vous avez menée ensemble, ça a été justement de ressusciter des musiques qui avaient un peu disparu, de reprendre ces mécanismes des temps et de recomposer des musiques dans cet esprit-là.
Tout à fait, tout à fait. Donc déjà, la wasla a été abandonnée, a été remplacée par d'autres types de musique, la suite musicale, a été aussi prédominée par l'art vocal. Là, on a proposé des suites musicales instrumentales, purement instrumental. Et pour revenir à cette histoire de qu'est-ce qu'on partage dans cet orient sonore, c'est cette histoire de suite musicale, parce que ça existe dans toutes les traditions, et aussi l'unité modale. Donc chaque suite, il doit être basé sur le même mode.
En même temps, la wasla, elle a une origine égyptienne, non?
La wasla, c'est la suite musicale égyptienne, mais ça existe aussi en Turquie, ça s'appelle le fasla, ça, en Syrie, au Levant. En Maghreb, on appelle ça la nouba, c'est aussi une sorte de suite.
Alors quand on reprend cette histoire de disparition musicale, ça passe par cette renaissance, la nada, peut-être, dont vous pouvez nous dire quelques mots, puisque les enregistrements de 1903, ils sont encore au cœur de cette période-là, ce moment d'effervescence culturelle en Orient.
Tout à fait. Bah, la Nahda, on décrit la Nahda, c'est la période qui va de le milieu du 19e siècle jusqu'aux années 1930, etc. Où on a gardé quand même une certaine continuité dans la tradition avant d'avoir des grands changements esthétiques au niveau des formes aussi jouées. Les ensembles instrumentaux qui ont aussi été transformés, soit par l'intégration des instruments issus de la culture occidentale, soit par un remplacement, par exemple, au pays de Maghreb, ils ont trois types de oud différents. Celui-là, on appelle ça le oud oriental, oud sharqi, tandis qu'ils ont le oud al-arabi, c'est un oud à quatre cœurs. Il a été abandonné petit à petit. En Irak, à la même époque, au milieu des années 1920, il y avait aussi, on a commencé à intégrer le oud oriental, qui n'existait pas, et le qanoun, le sitar sur table, au sein de l'ensemble, ce qu'on appelle le chalra et le bardadi. Tout ça a conduit petit à petit à des changements dans le style lui-même, parce qu'on ne peut pas changer les instruments sans influencer le style musical.
Alors on voit aussi les influences politiques et sociétales qui se passent en même temps. Par exemple, en 1932, il y a eu ce congrès de la musique au Caire qui a déterminé aussi une sorte d'entrée dans la modernité de l'Égypte. En tout cas, c'était l'idée, et qui a mis partiellement de côté le folklore, les musiques traditionnelles, tout ce qui était considéré comme tel, en tout cas, Tarek Abdallah.
Tout à fait. C'était aussi l'occasion de que l'Égypte soit son... affirme la centralité de sa musique et de sa place au sein du monde arabe. Et c'était aussi une occasion de faire des réformes au niveau de l'échelle musicale, etc. Donc une théorie universelle, soi-disant, valable pour expliquer toutes les pratiques existantes. Et c'était pas le cas, parce que c'est assez différent, même lorsqu'on parle de des répertoires joués en Égypte et en Syrie, qui sont assez proches. Il y a quand même quelques nuances de choses, c'est comme le dialecte, si vous voulez. Et donc le congrès l'a échoué, mais à ce niveau là mais sinon, il a quand même donné l'occasion à beaucoup d'enregistrements assez rares et assez uniques qui ont été édités par la Bibliothèque nationale de France il y a quelques années. Donc il y avait 200 disques à l'époque.
Alors, ce que l'on retrouve aussi dans l'exposition du MUCEM, c'est des vidéos et des documents qui montrent des traditions qui sont aussi menacées aujourd'hui.
Tout à fait. Il y a 12 traditions menacées.
Le Yomwabi notamment.
Le
Yomwabi, Yumbawi, je ne sais pas comment Yumbawi, prononcer comme il faut.
Il y a le Bahari aussi, qui est la musique le chant de la mer.
Le chant des marins.
Voilà, au Koweït, à cause du changement de la société, parce qu'aujourd'hui, ça y est, après le pétrole, on ne pratique plus.
Alors ce pourquoi métier. Quelle raison? Quel est le rapport entre les deux, Tarek Abdallah?
Ben, en fait, c'était un champ de travail à l'époque. Et on a abandonné le travail de la mer. Puisqu'on a retrouvé le pétrole. Et donc
la musique est morte avec.
Tout à fait, elle est conservée par de petites minorités, en fait. Et c'est ça qui est formidable avec le travail de documentation de Hamar, de laisser une trace déjà pour les chercheurs et pour les générations futures.
Alors on va vous écouter interpréter un deuxième morceau. Peut-être vous pouvez nous en dire deux mots.
On va jouer à une deuxième composition. Cette fois-ci, c'est une moitié composée, c'est-à-dire j'ai pris l'idée de ce qu'on a appelé le tahmila, avec des parties composées et une partie improvisée, mais accompagnée par un cycle rythmique. Et de nouveau, nous avons utilisé du cycle assez composé, du cycle boiteux, à 5 et à 7 temps, en le regroupant ensemble, etc. Et cette composition est nommée Istihlal Bayati. Bayati, c'est le mode, et Istihlal, c'est-à-dire commencement.
Je vous laisse vous installer, Tarek Abdallah. Adel Shamseldine, Tarek Abdallah dit style boiteux.
Oui.
Rythme boiteux, qu'est-ce que c'est?
Le rythme boiteux, c'est le rythme ternaire. C'est-à-dire le rythme à 5 temps, à 7 temps, que... Si on veut marcher sur ce rythme-là, il faut à un certain moment boiter un peu, parce que ce n'est pas un rythme binaire. Voilà. Alors, ces cycles, il y a des cycles à 5 temps, à 7 temps, à 9 temps, et on va voir avec Tarek qu'est-ce qu'il a fait avec ça.
Merci, on vous écoute.
Thank you.
merci beaucoup à tous les deux de nous avoir interprété ce deuxième morceau. Merci Tarek Abdallah et Adel Shamseldine. Je rappelle le titre de votre album, Wasla, suite musicale égyptienne. Quant à l'exposition L'Orient sonore, musique oubliée, musique vivante, pour laquelle Tarek Abdallah, vous avez rédigé deux articles que l'on trouve dans le livret, elle se tient au MUCEM jusqu'au 4 janvier prochain.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Et la grande table d'été continue en compagnie de la chanteuse Souad Massié, dont le sixième album s'intitule Oumnia. Bonjour.
Bonjour.
Quelle émotion quand même d'entendre cette musique-là en direct.
Et quel privilège de l'écouter en direct. Merci aux musiciens.
Alors vous, vos origines musicales, si je puis dire, vos premières histoires musicales d'amour traditionnel, c'est le Chaabi. Peut-être qu'on pourrait en dire quelques mots, Souad Massié.
Bien sûr, c'est les chants populaires algérois. C'est de la poésie, de la belle poésie. C'est de la musique qui m'a nourrie.
Alors, la poésie, ça, c'est du côté des paroles. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette musique-là, de ses particularités?
C'est une musique très, très ancienne, très belle, qu'on étudie un peu comme la musique andalouse, un petit peu, que ça a un peu ses origines dans la musique andalouse. Et c'est la musique aussi populaire.
Est-ce que c'est une musique que vous avez rencontrée dans votre enfance, Souad Massié?
Bien sûr, tout à fait. J'ai baigné dans cette musique, en fait, chez moi, avec mes parents, ma famille. On écoutait souvent cette musique.
Alors, cette musique-là, vous ne l'avez jamais complètement quittée, mais vous l'avez totalement métissée. Vous avez joué de diverses influences. Est-ce que ça reste Chaabi, ce que vous faites aujourd'hui, Souad Massié, selon vous?
On m'a toujours considérée comme une chanteuse populaire et je pense que c'est un très beau compliment et je fais toujours de la musique populaire, comme le Chaabi signifie aussi le chant populaire.
Donc au sens large, vous voulez dire, mais est-ce que musicalement, il y a quelque chose qui est resté de cette influence-là chez vous, même dans vos compositions, dans vos textes?
Surtout dans mon dernier album, Oumnia, j'ai fait un petit peu un retour à mes racines. Et il y a des influences de la musique Chaabi dans mes chansons.
Alors ce titre, ça veut dire « Mon souhait », c'est ça?
Mon souhait le plus cher, ou mon rêve.
Mon souhait le plus cher?
Oui.
Peut-être vous pouvez nous en parler. Vous avez décidé de quitter l'Algérie en 99. Vous êtes installée en France. Néanmoins, vous êtes toujours très engagée et votre
j'essaye.
Voilà, du côté de ce qui se passe en Algérie jusqu'à ces derniers jours. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez justement nous dire ce que portait cet album-là pour vous, notamment dans ces textes?
Dans cet album, dans mon dernier album Oumnia, je parle. Il y a beaucoup de thèmes. Je parle des libertés. Des libertés que je défends, j'essaie de défendre toujours. Je parle de l'Algérie, je parle aussi, j'ai des textes d'amour. Et tous les thèmes qui tiennent à cœur, toutes certaines causes que j'ai envie de défendre aussi.
Alors c'est vrai que dans vos albums précédents, vous avez aussi fait une place importante à la poésie. On vous a proposé d'écouter Mahmoud Darwish, c'était au Théâtre de l'Odéon le 7 octobre 2007.
La shay'a illa ad-daw.
Rien que la lumière.
La shay'a illa ad-daw.
Rien que la lumière.
Lam uqif hisa.
Je n'ai arrêté mon cheval que pour cueillir une rose rouge dans le jardin d'une cananéenne qui a séduit mon cheval et s'est retranchée dans la lumière.
Aghwat hisani.
N'entre pas. Ne sors pas. Je ne suis pas entré, je ne suis pas sorti. Elle a dit, me vois-tu? J'ai murmuré, il me manque pour le savoir l'écart entre le voyageur et le chemin, le chanteur et les chants. Telle une lettre de l'alphabet, Jéricho s'est assise dans son nom et j'ai trébuché dans le mien à la croisée des sens. Je suis ce que je serai demain. Je n'ai arrêté mon cheval que pour cueillir une rose rouge dans le jardin d'une cananéenne qui a séduit mon cheval. Et je suis reparti en quête de mon lieu plus haut. Et plus loin, encore plus haut, encore plus loin. que mon temps.
On entendait Mahmoud Darwish et traduit par les soins de Didier Sand, plus que traduit, hein, interprété par la voix de ce grand comédien aussi de la Comédie française. Qu'est-ce que ça vous évoque, Souad Massi, de l'entendre, ce poème ?
Ben, ça me touche beaucoup. J'ai déjà travaillé sur les textes, certains textes de Mahmoud Darwish. J'adore son art, ses œuvres, et il m'a beaucoup inspiré dans mon écriture.
C'est vrai que cet avant-dernier album, il rendait hommage aux poètes, mais il faut dire ce qu'est la poésie à la musique arabe aussi. Beaucoup plus qu'ailleurs, la poésie a une place déterminante dans cette musique-là et dans ce chant.
La musique arabe, bien sûr, la poésie, ben, la plupart des textes, c'était des poèmes. Et ce que j'aimais le plus, c'était, quand on mettait en musique, c'était plutôt les poèmes d'amour, parce qu'il y avait plein de métaphores, comme on n'osait pas dire franchement, parler de sentiments, d'amour. Et pareil, c'est aussi des influences qui m'ont beaucoup marquée.
Alors, l'influence, elle vient aussi des instruments. Alors, aujourd'hui, vous avez apporté une guitare acoustique, mais il y a aussi la mandole, qui est aussi un instrument caractéristique du Chaabi.
Oui, et le luth aussi.
Et le luth aussi. Et le violon, vous parlez de musique arabo-andalouse.
Oui, il y a beaucoup d'influence de musique classique arabe. Si je peux me permettre de parler de mon album, j'ai utilisé beaucoup le mandole et le violon. Parce que j'avais envie de retrouver des sonorités de la musique Chaabi. Et j'avais envie de créer aussi des ponts entre musique occidentale et musique arabe. C'est très difficile et délicat parfois de trouver un équilibre. Mais je pense qu'il faut oser dans la musique et casser les barrières.
Dans Omnia, justement, ce retour aux sources que vous évoquiez, il concerne autant la composition musicale, ses influences et ses métissages, que le propos et l'engagement politique, Souad Massi. C'est la même chose, au fond, ce que l'on cherche esthétiquement par la musique, ces mélanges qu'on cherche à faire, et ce que l'on cherche à dire dans les propos.
Mais je pense que dans mon dernier album, je me suis un petit peu plus dévoilée et dépassée un petit peu mes barrières, parce que je me suis exprimée plus franchement en ce qui concerne certains sujets politiques. Et
vous parlez du Irak?
Bien sûr, je parle du Irak, j'ai parlé franchement, j'ai critiqué franchement le gouvernement qui est toujours en place, malheureusement, et qu'on essaye on va tout faire pour les faire partir. Et aussi parler franchement aussi d'amour. C'est je sais pas pourquoi je m'étais mise des barrières toute seule, une sorte d'autocensure, et je me rendais pas compte. Mais j'ai pris un peu plus de temps pour oser dans l'écriture. Et je pense quand on arrive à un certain âge aussi, on peut se permettre de casser ses barrières.
Quand on vous a proposé de jouer Souad Massi, vous avez dit « moi je vais jouer le bien et le mal ». Alors oui. Pourquoi le choix de cette chanson ?
Je vais vous dire franchement, en ce moment je suis en colère. Surtout ce qui se passe dans le monde malheureusement, et surtout ce qui se passe en Algérie. Et surtout la dernière condamnation de la justice, entre parenthèses, algérienne, à l'encontre d'un grand journaliste qui est Khaled Rahni. Je dénonce l'injustice dont est victime Rachid Drarni.
Il faut expliquer, hein, il a été condamné à 3 ans de prison le 10 août dernier.
Et tout ça parce que tout simplement, il a exercé son métier de journaliste, de la couverture des manifestations en Algérie. Et si je peux me permettre, je demande sa libération et la libération de tous les détenus d'opinion en Algérie.
On va vous écouter chanter cette chanson en leur hommage. Je vous laisse vous installer avec votre guitare branchée. Cette fois-ci, c'est la guitare acoustique.
Électroacoustique.
Électroacoustique, absolument.
كان عطار ربي اليوم مراني نغني في الدم اللي قطعوا لي وتمرمات. كاين اللي يبكي على زهرو، كاين اللي حيبكي فوق قبرو، كاين اللي شام في صغرو كرهنا مهاد الحياة. كاين اللي يبكي على زهرو، كاين اللي حيبكي فوق قبرو، كاين اللي شام في صغرو تلفونا لوقا. كيتلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة، الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة. بين ركعية قلو حفيت من المشيان وزدلو، ظهري ليك نعملو كيسرج الحصان. كاين اللي يبكي على زهرو، كاين اللي حيبكي فوق قبرو، كاين اللي شاف في صغرو تلفونا لقى. ياك الحق ماشك في قوالو وطلع فوق ظهرو، كامل الناس اصبح حارو وبقاو يعذرو. كاين اللي يبكي على زهرو، كاين اللي حيبكي فوق قبرو، كاين اللي شاف في صغرو كرهنا مهاد الحياة. كاين اللي يبكي على زهرو، كاين اللي حيبكي فوق قبرو، كاين اللي شاف في صغرو تلفونا لقى.
Merci Souad Massi de nous avoir interprété cette chanson en direct. Peut-être vous pouvez nous raconter ce qu'elle dit, cette chanson-là, cette très très belle chanson.
C'est l'interminable lutte, la guerre entre le bien et le mal. Il y a beaucoup de métaphores où je raconte qu'il y a... je raconte l'histoire de deux hommes. L'un, c'est le bien, l'autre représente le mal. Et on voit... le mal qui est en train de marcher parce qu'il est rusé, il a demandé au bien de monter sur son dos, et de loin on voit le mal porter le bien qui est en train de marcher.
Est-ce que vous pouvez nous dire, ça c'est une chanson qui est plus ancienne,
très ancienne.
Dans l'album Omnia, le dernier, vous avez justement rédigé la plupart des textes, je crois, la plupart en dialecte algérois.
La plupart en direct algérois, oui. Et j'ai deux textes en arabe classique et deux chansons en français.
Alors justement, pourquoi ce mélange-là? Alors il y a la dimension populaire de le faire dans le dialecte, mais une chanson quand même en arabe classique, laquelle?
Alors pourquoi? Parce que je suis franco-algérienne, j'adore la langue française, j'adore l'arabe classique, et bien sûr j'aime beaucoup la langue algérienne, on peut dire algérienne, et kabyle. J'avais envie aussi de parler à tous ceux qui aiment m'écouter. Et pourquoi ce choix? C'est pour aussi dire que je suis une artiste qui est écoutée un peu par dans le monde arabe. Le choix de l'arabe classique parce que j'adore la poésie. J'avais envie aussi de rendre hommage toujours à la poésie.
Vous avez fait un concert de soutien le 3 avril dernier, enfin 2019 pour le coup, l'année d'avant, au mouvement du Irak. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet engagement qui est aussi un engagement artistique?
Artistique et politique.
Et politique, politique bien sûr, et artistique aussi.
Et artistique parce que je suis artiste et j'avais envie en fait de prêter ma voix à la rue algérienne. À mes concitoyennes qui sortaient tous les vendredis et mardis pour dénoncer toutes les injustices qu'on est en train de subir jusqu'à maintenant, pour aller vers un changement, pour voir évoluer l'Algérie, pour aller vers une vraie démocratie. J'avais envie de participer, d'être actrice réellement et d'apporter ce que je peux apporter en tant qu'artiste.
C'était important de pouvoir aussi porter cette voix-là depuis la France.
Je vis Soit en Massy. France et c'est en France.
Vous n'allez plus en Algérie?
Non, j'y vais plus et justement c'est en France où je peux m'exprimer et essayer de faire des choses.
Dans cet album, Oumnia, il y a aussi un engagement féministe, on pourrait dire, en tout cas lié à cette question de l'éducation des filles. Il y a une chanson que vous interprétez avec votre fille de 14 ans qui s'appelle « Je veux apprendre ».
Elle avait 5 ans à l'époque.
Elle avait 5 ans à l'époque.
elle avait 5 ans. En fait, j'étais très, mais vraiment touchée par un reportage que j'avais vu tard sur des histoires de petites filles d'Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient. Ça m'avait vraiment atteint. J'étais triste. Et je dis, au lieu de pleurer, on a le droit de pleurer, mais j'avais envie de transformer cette tristesse en quelque chose de concret pour essayer de sensibiliser les gens. Et pour dire que, surtout dans ces pays-là, que c'est important de laisser une petite fille aller à l'école parce que le savoir est une arme et c'est le seul moyen qui va lui permettre de connaître ses droits, de travailler et d'être indépendante.
Est-ce que vous nous chanteriez une chanson de Oumnia que vous choisissez votre guitare?
Ça fait un moment que je n'ai pas...
Ce que vous avez envie, comme ça, peut-être même sans la guitare, comme vous le souhaitez. Juste un petit extrait pour l'entendre, pour qu'on en ait aussi un peu la couleur.
D'Oumnia, ou d'autres, ou une autre.
Comme vous voulez.
Merci.
Vous êtes absolument libre.
قريتو شحال من حكايه حكاولي جرب اللي سقسيتو سطر فارغين خلاولي ما عرفت الطريق للشمس والورد في ربيع تبلي كل دار تبلي حس طلي بعت ولا لي وراني عايشه كلي في منا مره نامن ومره نكذب قالوا لي مع الوقت كل شي يبان اللي بيعمنا بيقول لي وراني عايشة كلي في منا مرة نامن ومرة نكذب قالوا لي مع الوقت كل شي يبان اللي بيعمنا بيقول لي.
Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette chanson?
C'est une chanson qui s'appelle Hayati, qui veut dire, c'est l'extrait Ma vie. J'ai écrit cette chanson quand j'avais 17 ans. J'avais plein de questions sans réponse. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'avais des questions sur la vie, sur la mort. Et ça parle de toutes ces questions que certaines restent suspendues.
Encore un hommage aussi aux jeunes filles et à vous, jeunes filles. Merci beaucoup, Souad Massi, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir joué pour nous comme ça en direct. Je rappelle que votre 6e album sorti il y a quelques mois s'intitule « Oumnia, mon souhait ». Tout de suite, c'est la fiction « Imagine le monde de demain » de France Culture avec la SACD, en partenariat avec le Théâtre de la Ville et en soutien à la création et aux auteurs, aujourd'hui le plus beau métier du monde.
Souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud, je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle me fait trois petites crottes. Je la mets dans ma casserole, elle me fait du rock'n'roll.
Le plus beau métier du monde, une fiction écrite par Paul Brunat-Rousseau, Elliot Margueron et Léon Yvet.
C'est pas mal, c'est la forme, elle est... Regarde.
Ouais, avec l'ensemble, ça...
Si, si, oh, bah je crois que c'est...
On se le note.
Ouais.
On le met de côté.
Ouais, ouais. Ouais. Ah, ça, j'aime bien ça.
revient à la page d'avant.
Ouais, c'est pas mal ce bleu, hein.
Celui-là ? Le bleu électrique ? Oh non. Je sais pas. C'est too much, c'est un peu trop bleu, non ?
Non, non, l'azur. Celui-là.
Et le bleu vert ?
Bleu vert, c'est pas très défini. Soit on fait azur, soit un vrai vert, tant qu'à faire.
Alors ok, oui, un vrai vert. Mais c'est ce qu'on avait en tête depuis le début. Pourquoi on perd notre temps sur les bleus ? Il me fait toujours tourner en bourrique.
Je comprends tout à fait. C'est un choix capital.
Oui, effectivement, c'est capital, chérie. C'est toujours ce qu'on garde en premier, en général. C'est normal qu'on se pose la question. Mais ouais, bon, d'accord. Ok, vert, c'est très bien.
Alors, je note vert. Oui ? Et c'est parti. Vous avez tout à fait raison. Avec des cheveux châtains et frisés, les yeux verts, ça sera magnifique. Entre nous, moi-même, je n'aurais pas mieux choisi.
Ah, d'accord.
Et pour le nez, on avait en tête quelque chose de Camus.
Ah oui, oui. Le nez de son père et les yeux de sa mère. C'est très équilibré.
De toute façon, pour nous, le principal, c'est le bonheur de notre enfant.
Évidemment. Mais si ça peut être équilibré, comme dit monsieur...
Chapoutier.
Monsieur Chapoutier, s'il peut ressembler autant à toi qu'à moi, c'est encore mieux pour nous trois.
Oui. Ça, c'est évident, Patrick. Mais on sait bien que c'est pas le physique le plus important. On l'aimera, quoi qu'il arrive.
Évidemment. Eh oui, évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, on avait une petite question. Voilà. C'est un peu personnel, je sais pas si ça se fait beaucoup, mais... Allez, j'ose. J'ai perdu mon père l'année dernière, on était très proches.
Je suis sincèrement désolé.
Non, non. Mais voilà. Mon père était très mélomane et j'aimerais... On aimerait... Que notre fils ait ses oreilles. Parce que finalement... Évidemment que c'est l'amour qui est le plus important, qui compte. Il peut même être un peu enrobé, on s'en fout. Mais ce qu'on aimerait beaucoup, c'est qu'il puisse avoir cet attribut-là. Puisque la transmission, au sein de notre famille, eh bien voilà, on pense que c'est la base d'une famille unie. Donc j'aimerais que notre enfant sache d'où il vient. Qu'on puisse lui dire, t'as vraiment les oreilles de ton grand-père, tu sais ça. Puisque finalement, il n'aura jamais la chance de le connaître, de savoir d'où il vient. En partie, bien sûr. Enfin, vous comprenez. Désolé, je suis un peu émue. Ça me... C'est encore un peu frais.
Mon chéri. Oui, la transmission. Et puis, on lui fera découvrir toutes sortes de musiciens. Et puis, lui-même, il sera pas toujours d'accord avec nous, c'est sûr. Et ça nous fera grandir aussi. Ensemble, quoi. Oh là là, Patrick, j'en reviens pas de ce qu'on est en train de créer. Me dire que dans 9 mois, un petit bébé va sortir de mon ventre et qu'il va... Oh, c'est complètement fou.
Vous avez vraiment un beau métier, monsieur Chapoutier.
Imaginez les enfants de demain.
En même temps, quand je travaille avec de futurs parents comme vous, je me dis que... Oui, oui, pas de doute, absolument. C'est le plus beau métier du monde. Bon, alors je vois qu'on est tous d'accord. Et si on lançait une petite simulation pour découvrir votre bamba ? Allez, madame, à vous l'honneur. Il faut appuyer sur le bouton vert juste là pour que la machine se mette en route. Si j'ose dire. Bien évidemment, ce n'est pour le moment qu'une esquisse. D'autres facteurs rentrent en compte pour le rendu final de votre bébé. Alors, je vous montre. Vous êtes prêts ?
Allez, prêts ?
À 3, je tourne l'écran.
1, 2, 2,5, 3.
D'accord.
Mignon, non? Ah, attendez, j'ai oublié de mettre le son. On a fait du bon boulot, hein?
On peut baisser un peu le son?
Oh, je veux bien. Mais quand il sera là, impossible de couper le son.
Ouais, enfin, il est pas là encore.
Il est pas mal. De toute façon, on va pas tout changer. Non, non, il sera heureux, c'est le principal.
Alors, on valide la proposition?
On peut faire une toute petite retouche, peut-être?
Attends, quoi? Ouais, ah, j'en étais sûr, c'est les oreilles, évidemment.
Mais non, Patrick,
Pardon, je suis obligé de le prendre. Oui, monsieur le directeur. Pardon, ne quittez pas, s'il vous plaît. Je vous laisse tranquille 5 minutes. Un petit temps avant de vous décider. Je vous apporte un verre d'eau, un café?
Oui, je veux bien, merci.
Oui, monsieur le directeur, pardon. Oui, certainement.
Non, mais t'es sérieuse?
Tais-toi, Patrick. Si on se prend la tête devant eux, on va se faire recaler.
Faut qu'on valide tout de suite, sinon il va nous passer sous le nez notre enfant. Si ça marche pas, là, tu sais ce que ça veut dire? 5 ans. 5 ans avant le prochain rendez-vous, Johanna. Écoute, chérie, il est moche comme tout, là-dessus, on est d'accord. Mais c'est pas dit qu'il garde cette tronche ad vitam. Là, il faut y aller, quoi.
Mais t'es malade! Il est pas moche du tout.
C'est les oreilles, c'est ça? Dis-le, t'aimes pas ses oreilles? Tu les trouves moches? Dis que ton fils a des oreilles moches.
Mais arrête avec ton délire d'oreilles, c'est même pas la question.
Et c'est quoi la question, hein? On était d'accord pour ces oreilles-là. Chapotier a même approuvé. On en a parlé, Johanna. On a dit que c'était important pour moi de faire cet enfant ensemble et de le faire pour lui transmettre des valeurs et notre héritage familial.
Ne parle pas de ce guignol de Chapoutier. C'est nous, les parents. Et personne d'autre, bordel. Je veux pas que mon fils se retrouve avec une gueule de raie et 2 paraboles poilues. Il est où, l'équilibre, ici, franchement? Tu veux quand même pas qu'il se fasse emmerder comme ton père dans la cour de l'école? Quitte à transmettre quelque chose, faisons en sorte que ce soit pas des casseroles. Tu parles de ton héritage, mais moi, je veux pas lui transmettre ça, c'est tout. L'héritage, c'est nous qui le construisons. Merde! On a le choix. Alors faisons le bon choix. Moi, j'ai encore tout mon temps. Et tous les deux, on l'a. Non mais, sois pas bête, il est pas au max. C'est pas un canon. Si on n'avait pas eu le choix, d'accord, la question se serait pas posée. Mais là, on peut pas le laisser comme ça, non? Rien qu'à l'idée, ça me fait vomir, là. Juste, respecte mon désir d'enfant, s'il te plaît. Écoute. Cet enfant, on doit le créer avec amour. Pas en s'embrouillant dans un putain de bureau avec moquette. Toi aussi, tu veux qu'on lui transmette ce qu'on aime, non? Ce qu'on déteste. Si on saisit pas l'occasion de protéger ce futur enfant, de tout l'héritage, justement, qu'il a fallu se payer depuis des millénaires, je vois pas bien ce qu'on fait là. Tu veux pas qu'on en fasse un mausolée non plus?
Ah mais c'est dingue! Tu fais un gamin pour toi, là? Tu me l'as fait à l'envers pendant longtemps, ou...
Attends, quoi? Tu peux répéter? J'ai pas bien compris, là.
Non mais joue pas sur les mots! Tu te la racontes complètement solo, là. Tu décores tout ça de grands discours, mais t'es surtout en train d'envoyer chier tout ce qui compte pour moi. Dis-moi que tu t'en rends compte, au moins.
Chérie, s'il te plaît. Je dis juste que c'est avec toi que je veux faire un enfant. Pas avec les gènes de ton père, sauf son respect. Et encore moins avec les bureaucrates ou les banquiers.
C'est gentil de ta part. Je sais pas si tu prends la mesure de ce qui va se passer si on n'est pas absolument sûr de nous, là. Tu sais à combien elles sont cotées en bourse en ce moment, les majorations sur les contrats de naissance annulés? Tu te rends compte de combien on devra raquer si on annule le nôtre?
Les cafés.
Merci
bien.
Alors, bon. Je suis sûr que vous avez bien profité de ce petit moment pour vous mettre définitivement d'accord. On passe au récap? Ou bien vous préférez peut-être attendre jusqu'à la... Non. Je me permets de vous faire la lecture dans les grandes lignes. Bon, on est entre nous, hein. Alors, formulaire d'autorisation de mise au monde délivré par le pôle Diane, direction de l'information et de l'assistance pour les naissances et l'enfance, numéro 14532. Alors, je passe, hein. D'une part... Les acquéreurs, Madame Johanna Pichon, née à Sarcelles le 8 juin 2019, Et Monsieur Patrick m'a dit, né à Audin-le-Tiche le 3 octobre 2016. C'est bien vous, n'est-ce pas?
Oui.
D'autre part, le pôle Diane, direction de l'information et de l'assistance pour les naissances et l'enfance. Ça, c'est nous. Donc... Ah oui, voilà. Relatif à la mise au monde d'un individu à venir de sexe masculin et présentant les attributs suivants. Groupe sanguin ou plus, cheveux frisés de couleur châtain, yeux de couleur verte, nez camu, oreilles dites musicales. Taille définitive estimée à 1m91, tour de taille standard, pointure 44. Je crois qu'on est bon. Et ce moyennant le paiement du montant établi d'après la situation fiscale des acquéreurs, Madame Johanna Pichon et Monsieur Patrick Maddy, à savoir la somme de... Petite formalité, just in case, comme on dit. Je vous rappelle qu'en cas de désistement de votre part, vous seriez amené à devoir payer la somme totale prévue, en plus des majorations de désistement. Mais ça, bien sûr, nous n'y pensons pas. N'est-ce pas?
Non.
Bon. J'attire votre attention sur le facteur aléatoire relatif à la naissance. Je sais que vous avez bien lu la notice, mais il n'est pas exclu qu'un imprévu, et ce pour veiller à l'équilibre impartial des naissances, se mêle à votre aventure. La nature ne pouvant en être connue à l'avance. Ce qui, bien entendu, peut être pris comme une épreuve renforçant les liens de votre famille.
Oui. Bien sûr.
Ah oui. Et compte tenu de vos antécédents familiaux, de votre héritage, comme dirait monsieur, je me suis permis de proposer votre enfant à un panel de 5 universités, toutes gérées par le pôle Diane. Un petit mot rapide sur cette option non négligeable. Il s'agit, comme vous le savez sans doute, d'un système de prêt étudiant dont les taux d'intérêt augmentent à mesure que votre enfant gagne en âge. Il est donc bien entendu préférable de choisir dès maintenant, au prix le plus bas, un kit d'orientation vers un panel de 5 universités. En l'occurrence, celle de Tokyo, Pyongyang, Lagos, Londres et Périgueux. Dans la spécialité que vous avez choisie vous-même pour lui, c'est-à-dire la musicologie. Et dernière petite question. Pour le prénom, vous avez trouvé votre bonheur dans notre catalogue?
Ounanana. Ounanana. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. La valanche fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être faux, faut pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Nez, oui, tout donner. Toujours se relever. Au revoir. 10 secondes de récup et on repart.
Le plus beau métier du monde de Paul Brunarosso, Elliot Margueron et Léon Nivet. Réalisation Juliette Eman. Générique à retrouver sur franceculture.fr.
Retrouverez un prochain épisode de La Fiction Imagine. Demain, c'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, il est dans le lieu-dit de la Bariva, titre d'une des nombreuses aventures d'Arsène Lupin.
Nous sommes juste à côté de Villequier, où nous étions hier pour parler de la mort de Léopoldine Hugo et de la fin des amours de Guillaume Apollinaire et de Marie Laurencin. Nous sommes donc juste à côté de Villequier, à Côtebec-en-Caux. Et il y a un lieu-dit à Côtebec-en-Caux qui s'appelle La Bariva, en relation avec le mascaret qui remonte la Seine et dont je vais parler. La Bariva, c'est le titre, vous en souvenez, de l'une des aventures d'Arsène Lupin qui se passe donc ici, dans un Côtebec que Maurice Leblanc a rebaptisé Radicatel. Et cette barre, c'est tout simplement le flot qui remonte. Pendant les grandes marées, le violent flux marin qui pénètre dans l'estuaire rencontre le flux du fleuve. Et l'étroitesse des berges déterminant un renversement du courant, c'est une lame puissante qui remonte la Seine au lieu de la descendre. C'est ce qu'on appelle la barre, et la barre y va, c'est-à-dire qu'elle remonte jusqu'à Côtebec, ou plutôt qu'elle remontait avant que les berges de la Seine ne soient arrangées pour atténuer ce phénomène. Les chroniques nous offrent des descriptions absolument impressionnantes, avec le gros rouleau écumeux remontant le fleuve à la vitesse d'un cheval au galop, puis venant se fracasser sur les rives en inondant les quais. La barre y va est un des romans de la dernière partie de la vie de Maurice Leblanc et date des années 30. Lupin et Leblanc ont, ainsi qu'il est normal, vécu ensemble des vies parallèles. D'abord l'ascension impétueuse d'Arsène Lupin, de la comtesse de Cagliostro à l'Aiguille Creuse, et pour Leblanc des premiers articles à la gloire, au second mariage, au château de Tancarville, où il allait habiter chez sa sœur. Et puis vint la rupture de la guerre. Leblanc est trop vieux pour être rappelé sous les drapeaux, il perd un neveu, il est profondément affecté par le conflit, et quant à lui, Lupin connaît, de la fin de 813 jusqu'à l'île aux 30 cercueils, des aventures plus sombres. Il apparaît d'ailleurs moins, il apparaît à peine dans l'île aux 30 cercueils, à peine plus dans l'éclat d'obus, il n'est plus le centre de l'action, il n'est que l'agent final d'une providence française et bienveillante. Cette deuxième période a donné de très belles pages, comme celle de la description de Paris sous le couvre-feu dans le Triangle d'or, qu'on peut lire en parallèle de celle que donne Marcel Proust dans La recherche du temps perdu. Puis vient la troisième manière, celle de l'apaisement. Lupin est au fait de sa puissance, il est reconnu, même s'il est pourchassé, il est célébré, glorieux et moral, et il résout toutes sortes d'énigmes jusqu'à sa retraite finale au Clos Lupin, jusque pour Leblanc à sa retraite finale dans la villa d'Étretat, où ce sera la fin de leur voyage en commun. De la deuxième période, l'aventure qui recommence avec les 8 coups de l'horloge, et pour moi son chef-d'œuvre, celui d'un nouvelliste fantastique, d'un Mérimée qui n'aurait voulu faire peur à personne. Bien sûr, dans la deuxième période aussi, il y a des drames, dans Les Dents du Tigre, dans laquelle Cagliostro se venge, mais ces drames n'ont pas l'intensité des drames de la première période, et encore moins de la période de la guerre. Le monde a perdu les couleurs chatoyantes et innocentes de 1900, il est plus gris, il est plus organisé, il est plus mécanique. Ce monde des années 30 a parfois, dans les livres de Leblanc, la tristesse immobile d'un salon de Ruhlmann. Mes grands-parents vivaient avec des meubles de ce genre, des meubles froids qui me semblaient mieux faits pour les accords de Munich que pour les intrigues sentimentales. À peu d'exceptions près, la nostalgie des Lupiniens les a fait se projeter quand ils se sont mêlés d'écrire des pastiches, ces pastiches qui nous réjouissent aujourd'hui et grâce auxquels le cycle de Lupin paraît rester ouvert pour l'éternité. La nostalgie de ces Lupiniens donc les a portés plutôt vers la première période, celle d'avant 1914. Que ce soit Boileau et Narcejac dans Le secret de Nerville ou Michel Zinc dans Le mystère d'Arsonval. Michel Zinc relève à juste titre dans une préface que Leblanc partage avec Lupin le goût de la modernité, pratiquant le vélo, l'automobile, le paquebot, le téléphone et la télégraphie sans fil. Mais curieusement, ces instruments sont moins mis en valeur dans les derniers livres. La guerre est passée par là. La technique a été mise au service du massacre. Le téléphone a déplacé des divisions d'infanterie pour les amener au chemin des dames et les torpilles ont coulé le Lusitania. Les 8 coups de l'horloge, comme la Bariva, semble plus statique, presque craintif, moins moderne. Les traits distinctifs de Lupin sont toujours là, bien sûr, mais comme nimbés d'une lumière grise, et même les crimes suscitent comme un nouveau sentiment d'horreur, puisqu'ils viennent non pas trancher sur la période heureuse de 1900-1910, mais au contraire s'ajouter encore aux crimes de l'histoire, aux massacres de masse, donnant le sentiment d'une gratuité imbécile et d'un entraînement mécanique aux crimes, et pour finir, de la folie des hommes, comme dans cette nouvelle des 8 coups de l'horloge qui s'appelle « La dame à la hache » et qui reste pour moi l'une des plus belles. Si on se fie à cette analyse, la Bariva combine des traits nouveaux et des traits anciens dans l'œuvre de Lupin. Ou plutôt un trait nouveau dont je parlerai d'abord et qui est le grotesque. Le grotesque apparaît avec la guerre. Le rentier d'après-guerre, dans Maurice Leblanc, est plus ridicule que le rentier d'avant-guerre. Ici, M. Guersin, dans la Bariva. Et ses lubies de fabricant d'or le font ressembler à Bouvard et Pécuchet. La guerre est passée. L'épargne française a financé les Russes qui ont fait défaut. La révolution menace, le franc est menacé. Le rentier est aussi dérisoire que l'ordre. On n'en est pas chez Leblanc à la protestation surréaliste, bien sûr. Mais ce n'est plus le monde de 1900 et le désenchantement est là. Le policier aussi est beaucoup plus ridicule après 1914 qu'avant. Les personnages de domestiques eux-mêmes, attachants autrefois parce qu'ils servaient un ordre finalement bénéfique, au moins dans les yeux de Maurice Leblanc, deviennent détestables comme s'ils étaient coupables de continuer à servir cet ordre après qu'il ait déçu et qu'il ait abouti au massacre général. Ainsi, dans la Bariva d'Arnold, le voleur, ancien acrobate de cirque. Tout ça est nouveau et un peu triste. Les traits anciens, eux, sont toujours là, et j'en donnerai deux, l'amour gemellaire et le lien du passé et du présent. L'amour gemellaire est chez Leblanc une figure récurrente. Lupin aime en même temps, comme le ferait un macroniste, en même temps est d'abord la devise d'Arsène Lupin. Soit il aime deux femmes entièrement dissemblables, Clarisse Détigue et Joséphine Balsamo, la demoiselle aux yeux verts ou Miss Bakefield, l'anglaise aux cheveux roux. Soit il aime deux femmes très semblables et que des détails de vie distinguent, Antonine et Clara dans La femme aux deux sourires. Soit, comme dans La Bariva, il aime deux sœurs, Bertrande et Catherine, sans parvenir à se décider, et pour finir, se retrouve seul. Michel Zinc, dans une préface remarquable, a relevé que le sentiment d'humiliation était au centre des aventures d'Arsène Lupin. Il est très souvent humilié au début de sa carrière d'aventurier, puis ayant acquis sa pleine stature, il humilie indistinctement les autres, qu'ils soient bons comme Beautrelet, mauvais comme Vronsky ou indifférents comme la plupart des serviteurs de l'ordre. Lupin se venge d'une enfance humiliée, comme Monte Cristo, de son enfermement arbitraire. Mais au fond, l'humiliation du héros dure jusqu'à la fin dans l'univers sentimental. Il ne choisit pas, il trahit, il est trahi, les femmes le quittent et meurent, des rivaux méprisables lui sont préférés, comme il le dit lui-même, à la fin de La Cagliostro se venge. Et pour finir, s'il conquiert, s'il aime, s'il est aimé, ses triomphes ne sont jamais durables et il se retrouve aussi seul que ces femmes abandonnées que furent sa mère et sa première fiancée Clarisse Détigue, que Maurice Leblanc a placée au début de ses aventures. À la fin de La Bariva, ce n'est pas avec l'une des sœurs qu'il s'en va, faute d'avoir pu choisir, mais avec le brigadier Béchou, en camarade et, comme on dit, à tombeau ouvert. Quant à la gémellité, j'éprouve un certain plaisir nostalgique que, on me pardonnera, j'espère, à l'évoquer ici, moi qui ne suis pas Arsène Lupin, mais qui me suis épris de deux jumelles en classe de 5e. C'était l'époque des premières grandes sorties scolaires et nous allions de Jumièges à Honfleur. Elles s'appelaient Laure et Odile et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Mais les camarades avec lesquels je me suis consolé en parcourant le monde étaient heureusement bien plus remarquables que le brigadier de police Béchou. Le second trait, c'est le passé caché sous le présent comme dans L'Aiguille creuse ou La comtesse de Cagliostro. Et ceci nous ramène au Mascaret de Caudebec où nous sommes. Le nœud de l'affaire dans La Bariva est le suivant. Un homme, le père des deux sœurs, prétend avoir trouvé le secret de la fabrication de l'or. Des crimes s'ensuivent, évidemment, comme à chaque fois qu'il est question de fortune. On découvre assez vite qu'il ramassait cet or dans un petit affluent de la Seine qui s'appelle l'Aurel. On pense donc que la rivière est aurifère, ce qu'elle n'est évidemment pas. D'énigmes en grimoire déchiffré, Lupin finit par comprendre. Il comprend, je dois dire, en réalité, assez vite, et c'est le lecteur qui est laissé dans l'obscurité, ce qui est toujours de bonne méthode. Un consul romain avait enterré dans un tumulus le produit de ses rapines, en mettant de la poudre d'or dans des jarres. Aux grandes marées d'équinoxe, le Mascaret, la barre donc, remontant le fleuve, pénétrait la cave et en refluant, entraînait dans la rivière des parcelles d'or. Tel était le secret. C'est à la fois le rêve d'une épargne à peu près indestructible, un rêve très 1900 en effet, et l'ultime bienfait qu'un passé lointain dispense au présent, puisque le passé proche s'est montré quant à lui inutile, méchant, cruel et dispendieux. Lupin, c'est à la fois le rêve de l'unité et celui de l'apaisement, mais d'une unité et d'un apaisement obtenu en dehors de l'ordre politique et social, et le plus souvent malgré lui. Et c'est pour cela que Maurice Leblanc n'est pas un auteur de romans policiers, au sens classique du terme. Ce n'est pas seulement parce que le personnage qu'il a créé est un anarchiste mondain. C'est le plus grand des voleurs, comme le chantait Jacques Dutronc, ou version finale, c'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant avec ses gants, ou bien sans gants, l'Arsène. Ce n'est donc pas parce que le personnage qu'il a créé est un anarchiste mondain. C'est plus profondément parce que le lecteur ne se trouve pas placé dans la position d'un juge d'instruction auquel on communiquerait un dossier pour qu'il décide, mais dans celle d'un enfant qu'on doit réconforter. Le crime chez lui est indifférent. Il est simple, répétitif, souvent inspiré par la folie. Il n'y a rien à en tirer. Ce n'est pas ça qu'il veut. Je veux dire, ce n'est pas ça que Leblanc veut communiquer au lecteur. C'est un sentiment de réconfort. On peut triompher du monde. Le passé recèle des trésors. Notre destin n'est pas celui des enfants humiliés. La punition des coupables est moins importante que la réparation et peut-être que le bonheur, inlassablement cherché dans l'aventure. Le mal, après tout, n'est que ce Mascaret que nous voyons ici à Caudebec. Il reflue et il laisse de l'or dans son sillage pour qui sait voir. C'est le miracle de la Seine. Vive les jumelles. Vive Arsène Lupin. Vive l'anarchie.
On se retrouve lundi pour une nouvelle grande table d'été consacrée à la rentrée littéraire. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchen Djergaillan, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation, Lise Combe, à la technique, Ludovic Auger et Jean-Guilain Meige.